Amen, gloire à Dieu. Voilà, je voudrais aller avec vous dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce que vous aimez lire l'Apocalypse? C'est un beau livre, l'Apocalypse. Ça veut dire révélation. Voilà, Dieu parle et révèle eh bien des choses à son peuple. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous allons aller au chapitre 3e du livre de l'Apocalypse et au verset 7. Voici ce qui nous est dit. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire à Dieu. Quand on lit le livre de l'Apocalypse et que l'on commence bien sûr par ces premiers chapitres où nous voyons le Seigneur faire un examen, un bilan, eh bien, de son Église au travers de cette Église locale, eh bien, nous sommes tout de suite attachés à cette Église de Philadelphie. Parce que c'est une Église, voilà, qui possède des qualités que nous aimerions tous posséder, avoir, alléluia. Et je crois que si on demandait à un pasteur, mais quelle église est-ce que tu veux être le pasteur? L'église de Philadelphie, c'est une bonne église. Alléluia. Amen. Voilà. Et Sainte-Anne, c'est une bonne église. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque nous lisons ce texte, eh bien nous voyons eh bien que c'est une église à laquelle le Seigneur ne fait pas de reproche. Il y a deux assemblées qui sont comme ça dans ce texte. Il y a l'église de Smyrne et puis il y a l'église également eh bien de Philadelphie. Le texte de l'Apocalypse est un texte qui nous parle des temps à venir. Le Seigneur prépare son peuple à des temps difficiles. Il sera vainqueur dans ces temps difficiles. C'est lui le vainqueur. Alléluia. Mais vous avez entendu, il y a une grande tentation qui va passer pour éprouver, eh bien, le monde entier. Mais cette église est prête à supporter, eh bien, ces temps qui sont à venir. Alléluia. Et quelqu'un a dit en priant le Seigneur que nous sommes dans des temps difficiles, comment ne pas le considérer? C'est la vérité. Il suffit que nous entendions les nouvelles, les informations, et nous voyons vraiment que nous sommes dans des temps compliqués, même doctrinalement, nous sommes dans des temps compliqués. Voyons toutes sortes de choses difficiles. Et pourtant ici, eh bien, l'Écriture nous parle de cette église de Philadelphie, qui possède une qualité. Sa qualité, c'est pas sa richesse. Sa qualité, c'est pas, eh bien, j'allais dire, de faire des œuvres extrêmement nombreuses. Mais elle a une qualité tout à fait particulière, puisqu'il nous est dit, eh bien, tu as gardé ma parole. Alléluia. Et je crois vraiment que c'est la qualité que le Seigneur recherche au milieu de son peuple également, que nous soyons de celles et ceux, eh bien, qui vont garder la parole du Seigneur. Et c'est sur ce thème-là que je voudrais vraiment que nous puissions méditer ensemble. Bon, ce sera mon premier point. Et puis, on va avancer ainsi comme cela. Alors, je voudrais vraiment définir avec vous, eh bien, ce que c'est que la parole. Garder ma parole. Tu as gardé la parole de la persévérance. Le mot parole dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, il porte un sens particulier parce qu'il s'agit de la révélation de Jésus-Christ, de la révélation de Dieu par Christ. Alléluia. L'Écriture nous dit, Jean chapitre 14, verset 9, c'est Jésus qui parle, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » L'Écriture nous dit, dans Jean chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Alléluia. Je sais pas si vous aimez les sciences. Moi, j'ai une formation scientifique. Et j'aime les sciences, et encore aujourd'hui, je m'achète des revues scientifiques, la cosmologie, toutes ces théories, la relativité, ça me passionne, c'est des choses extraordinaires. Et j'y vois la grandeur de Dieu. J'y vois, eh bien, le Dieu merveilleux qui a créé cet univers, alléluia. Et même les scientifiques, à l'heure actuelle, avec le Big Bang, sont capables de remonter en arrière, de dire, à un moment, l'univers n'existait pas, et puis il a existé, le commencement du temps, c'est extraordinaire. Ça nous prouve, eh bien, comment Dieu est à l'origine de toute chose. Mais il y a quelque chose de bien plus extraordinaire que ça. Il y a quelque chose de bien plus extraordinaire. C'est que ce Dieu merveilleux qui a créé toute chose, et quand je dis ce Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y en a un deuxième, c'est Dieu, alléluia, le Dieu unique, seul, notre Seigneur, alléluia, Dieu s'est fait homme. Alléluia. Un astronaute américain dira ceci, le plus extraordinaire, c'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre. Alléluia. Il est venu à ma rencontre. Pourtant j'étais loin de lui, pourtant j'étais séparé de lui, pourtant j'étais esclave de mon péché, de mes addictions, mais il m'a aimé, il m'a libéré et il s'est fait homme. Il est venu dans un corps de chair pour mourir sur une croix, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia! Amen! Et c'est cela que nous voulons garder. Je voudrais peut-être m'adresser à celui, à celle, eh bien, qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien, de le rencontrer, de dire, Seigneur, je veux faire la paix avec toi. Seigneur, je veux t'accepter comme mon sauveur, je veux t'accepter comme mon Seigneur. Alléluia! Et le fait de garder cette parole, nous amène à comprendre une chose, c'est que nous avons une responsabilité. Il ne s'agit pas simplement de lire la Bible, il ne s'agit pas simplement de connaître des versets, il ne s'agit pas simplement de se rassembler, même si cela est extrêmement important, il ne s'agit pas simplement de dire « je crois » comme cela, mais l'Écriture, et je vous le cite dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9 et au verset 31, dira ceci, ce sont les paroles du Seigneur. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Dès lors, nous comprenons une chose. C'est que lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus, eh bien, je l'ai choisi pour mon sauveur. Mais Seigneur, à quel autre irais-je qu'à toi? Amen. Vous n'êtes pas ainsi? Vous vous souvenez de tout ce que le Seigneur a fait pour vous? Comment vous l'avez rencontré? Comment il vous a délivré? Alléluia! Et maintenant, vous voulez dire, mais Seigneur, la vie sans toi, c'est impossible. Mais Seigneur, tu m'enlèves ta présence. Mais je suis le plus malheureux des hommes. Mais Seigneur, la vie n'a plus de saveur. Mais c'est toi, alléluia, dont j'ai besoin. Et nous voulons être de ceux et celles qui veulent être des disciples, qui veulent garder, eh bien, cette parole, d'autant qu'il nous est dit qu'il y aura une grande tentation. Il y aura des moments difficiles pour le monde entier, pour le peuple de Dieu, et le mot garder signifie également retenir, veiller sur, comme si on pouvait nous ravir ce que nous avons. Vous avez remarqué, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est comme si le Seigneur était en train de te dire, tu es vainqueur, tu marches dans mes voies, tu vois la victoire du Seigneur dans ta vie, mais attention, tu n'as pas encore franchi la ligne d'arrivée. Vous savez, c'est un petit peu le paradoxe de la vie chrétienne. On est déjà sauvé, on est déjà sauvé. Amen. Amen. Mais on n'est pas encore dans le ciel. Déjà sauvé, mais pas encore dans le ciel. Et c'est pour cela que l'Écriture nous dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Tu as gardé la parole de la persévérance. On pourrait même le traduire ainsi, en disant, Seigneur, eh bien, je veux garder, je veux persévérer à garder ta parole. Je veux garder ta parole avec persévérance. Je veux rester, eh bien, persévérant. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, et vous le savez, chers frères et sœurs, c'est qu'avec Dieu, on peut persévérer. On peut aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Vous êtes là avec moi, hein? Amen. Hein? Avec le Seigneur, on peut aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Pas parce qu'on est les plus forts, pas parce qu'on est les plus beaux, pas parce qu'on est les plus intelligents, mais parce qu'on a fait une alliance avec le Seigneur et que lui, il est avec nous. Alléluia ! Et l'Écriture nous dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à quoi ? Jusqu'à la fin du monde. Il y aura une fin, mais jusqu'à ce que cette fin arrive, le Seigneur est avec nous. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ça remplit notre cœur de joie, ça. Amen. Seigneur, merci parce que encore aujourd'hui, ta victoire, elle est actuelle sur Satan, sur la mort, sur le péché, même sur moi-même. Mais demain aussi, cette victoire sera la même. Alléluia. Et je veux compter sur toi et je peux persévérer à avancer. Alors, quand on lit la parole de Dieu, c'est merveilleux parce que on peut la méditer, y réfléchir, la sonder, mais elle est tellement riche, elle est extraordinaire. Et je me suis posé la question, voilà, tu as gardé ma parole, mais Seigneur, quel axe ? Voilà, sous quel angle on va comprendre toutes ces choses-là ? Et vous savez, la Bible, elle est centrée sur Jésus. Amen ? Elle révèle Christ, elle révèle le Seigneur. Et on peut se poser cette question, mais comment comprendre, comment aborder cela ? Et je vous ai dit, ma parole, Jésus, il est la parole, parole faite chair, c'est le Christ, la révélation, ok, très bien. Maintenant, lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que lorsque Jésus parle à son Église, il se nomme lui-même de façon particulière. Vous avez remarqué dans l'entête ? Puisque, je reprends hein, le texte, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur donne de lui-même trois noms qu'il concerne. Il sait qui il est, il se nomme. Il est celui qui est le saint, il est celui qui est le véritable, et il est celui qui tient la clé de David. Le saint, c'est celui qui nous parle bien sûr de la sainteté, le véritable, la vérité. Celui qui a la clé de David, ça veut dire celui qui ouvre, ce qu'il a préparé, ça s'accomplira. Ses plans s'accomplissent toujours. Amen. Donc ces trois points, ça veut dire quoi ? Je garde ta parole, mais ça veut dire quoi ? Et pour l'église de Philadelphie ici, je garde la sainteté, je veille sur la sainteté, la vérité, et je veille à rester dans tes plans, Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est cela qui est important. Et je voudrais, voilà, qu'on prenne quelques instants pour que nous puissions réfléchir là-dessus en nous disant, Seigneur, est-ce que je le fais ? Est-ce que je le garde ? Est-ce que je suis, eh bien, dans cette dynamique ? Dans mon église locale, parce que il y a quelque chose aussi de particulier dans l'église de Philadelphie. Vous savez ce que ça veut dire, Philadelphie ? Vous le savez ? Le grec ? Ça veut dire l'amour des frères, l'amour fraternel. C'est-à-dire que tout cela est mis en mouvement aussi par les membres de l'église qui veillent les uns sur les autres afin qu'on reste dans la sainteté, afin qu'on reste dans la vérité, afin qu'on reste dans le plan de Dieu. Non pas pour se surveiller, mais comme des frères et des sœurs qui veulent avancer ensemble. Alléluia. Qui s'aiment les uns les autres parce qu'on veut tous entrer dans le ciel de gloire. Alléluia. Amen. Et garder la sainteté, ben la sainteté, en cherchant dans l'Écriture la sainteté, bah c'est la nature de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Jésus a la même nature que son Père. Cela signifie qu'il est absolument pur et séparé du péché. Et vous le savez, quand nous avons rencontré le Seigneur, 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, nous dit ceci, que nous sommes devenus participants de la nature divine. Quand vous avez rencontré Christ, lorsque vous avez été amené à la repentance, à ce changement de mentalité qui s'est opéré par une action du Saint-Esprit, vous avez compris que vous étiez un pécheur, que Dieu vous aimait, qu'il avait donné son Fils, et vous avez compris que vous étiez perdu, mais en vous repentant, en plaçant votre confiance dans le sacrifice de Jésus, vous avez été sauvé. Alléluia, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce jour-là. C'est que le Seigneur lui-même est venu habiter en vous. Alléluia. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit, amen. Et le temple de Dieu est saint, alléluia. Et il y a eu un travail extraordinaire du Saint-Esprit dans votre vie, de régénération. Et sans qu'on vous le dise, peut-être que vous étiez habitué à lire certains romans, à voir certaines séries à la télé, à voir certains amis, et vous dites, mais, Seigneur, je peux plus continuer. Je sens que ça t'attriste, Seigneur. Je me souviens de cette dame qui venait de rencontrer le Seigneur. Elle était une espèce de chanteuse là dans des soirées organisées tout ça. Et puis elle avait l'habitude d'aller au casino et un de ses amis lui a dit viens au casino. Et elle venait de rencontrer le Seigneur, elle lisait la Bible et elle y va. Alors elle m'a dit je n'ai pas réfléchi, j'y suis allé comme j'y allais autrefois. Et puis m'a dit ceci, à partir du moment où j'ai franchi les portes de cet établissement, j'ai senti une tristesse sur moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est pas ma place. Elle m'a dit, j'ai passé la soirée la plus horrible de ma vie. Lorsque je suis rentré à la maison, je me suis contenu dans la voiture quand on me ramenait. Mais dès que je suis rentré chez moi, mais je me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, pardon Seigneur, je savais pas. Et je lui ai dit, mais c'est bon signe, alléluia, c'est le signe que vous êtes né de nouveau, alléluia, parce que maintenant, eh bien, le Saint-Esprit agit dans votre cœur, alléluia, et le Saint-Esprit agit dans notre cœur pour nous faire aimer ce que le Seigneur aime, alléluia, et nous aimons maintenant la pureté, la justice, la vérité, alléluia, cela n'était pas possible autrefois parce que nous étions impurs, mais le sang de Jésus nous a lavés et purifiés de tout péché, et maintenant Seigneur, eh bien nous marchons dans tes voies, et le Saint-Esprit peut eh bien agir dans nos vies, à lui soit la gloire. Donc nous comprenons que la sainteté, c'est notre identité, c'est notre identité, vous serez saints, car je suis saint, du verbe être. Pas avoir la sainteté, mais être saint, c'est ton identité. Et nous sommes dans un monde qui travaille à ce que nous perdions notre identité, mais en ce qui nous concerne, nous avons besoin eh bien de garder cette identité. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que à toutes les époques, les hommes de Dieu ont veillé sur ce caractère, eh bien, de la sainteté dans leur vie. Je pense à Daniel lorsqu'il entre dans la ville, lorsqu'il entre à Babylone, on change son nom. Mais l'Écriture nous dit, avec ses amis, qu'il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Tu as beau changer mon nom, tu as beau dire toutes sortes de choses, mais moi je reste fidèle à l'Éternel. Alléluia. Et il y a un combat, eh bien, dans ce domaine-là, nous voulons comprendre que, eh bien, ce caractère de notre identité, mais c'est un signe d'amour. Seigneur, j'aime ce que tu aimes. Je ne veux rien faire qui puisse t'attrister. Et vous le savez tous, lorsque nous attristons le Seigneur, mais on devient les hommes et les femmes les plus malheureux du monde. Oui ou non? Oui ou non? Autant on est les plus heureux lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsqu'on est là à louer le beau nom de Jésus, autant lorsqu'il y a quelque chose, eh bien, qui attriste le Seigneur. C'est pas une religion qu'on a avec Dieu, mais c'est une relation, alléluia. C'est un cœur à cœur, et on le sait tout de suite, hein. Hein? Oui ou non? Et tout de suite, besoin de se repentir. Mais notre trésor, ce qui vaut la richesse de ces moments, c'est la présence de Jésus. Alléluia. C'est que lui soit là. Amen. Alléluia. Alors nous avons besoin de garder cela. Et de faire attention également aux mises à jour que le monde aimerait que nous puissions faire. Ah, il y a des mises à jour. Dans pas longtemps, on va mettre à jour les statues. Vous êtes dedans, hein, vous aussi, hein. C'est un truc, hein. Voilà. Alors donc, voilà. Bon, ça, c'est quelque chose, hein. Voilà, c'est administratif, hein. Pour le moment, c'est administratif. Alors, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Ben, on le fait. Voilà. Très bien. Il y a eu des mises à jour dans la vie de Salomon. Vous connaissez Salomon? Vous souvenez de Salomon? De mémoire, je crois que c'était 300 femmes, 600 concubines. Et lui, il a fait des mises à jour dans sa vie. Hein. Au début, c'est bien parti. Hein. Il a fait le temple. À la fin, il construit dans la ville de Jérusalem elle-même des temples pour les Baals et tout ça. Et l'Écriture nous dit séduction. il a perdu son identité. Séduit par l'amour qu'il portait aux femmes étrangères, eh bien, elles ont dirigé son esprit et son cœur, eh bien, vers ses idoles. Et on peut dire d'une certaine manière, eh bien, il a perdu, eh bien, son identité. Et en ce qui nous concerne, on a besoin de veiller sur ce qu'on est. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu es sauvé par grâce. Ne te laisse pas ravir ce que tu es. Alléluia. Et mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'on a besoin de se retrouver. Quand je vous vois, mais comme quand je suis à la Mosson, mais lorsque je vois mes frères et mes sœurs, je vois la réalité visible de ce que Jésus est capable de faire aujourd'hui. Il y a des frères et des sœurs qui ont un passé différent, des origines différentes, des études différentes, des professions différentes, mais on est tous ici rassemblés pour dire, oui, on est tous différents, mais on est tous pareils en Jésus. Alléluia. Parce qu'on est tous des pécheurs sauvés par grâce. Alléluia. Amen. Et on veut marcher avec le Seigneur. Amen. Et c'est pour cela qu'on a besoin de se retrouver. Et la volonté du Seigneur, c'est là, parce que on est une armée. Et on a besoin de se souder, de se ressouder. On a besoin que, tiens, le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la sainteté. Ça s'appelle la sanctification. De marcher de progrès en progrès. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Il y a il y a assez longtemps, il y avait une jeune fille au bureau, une jeune chrétienne, et elle s'aperçoit qu'il y a un collègue de travail, voilà, très beau, très joli, qui commence à lui faire les yeux doux, vous comprenez un peu la chose. Il l'invite au restaurant, tout ça. Cette jeune fille, elle est célibataire, et elle est en âge de, voilà, elle se dit, voilà, pourquoi pas. Mais en même temps, elle est sérieuse avec le Seigneur, elle aime le Seigneur, et elle aime Dieu, et elle se pose des questions, mais est-ce qu'il est fait pour moi ou pas? Parce que il est pas au Seigneur. Il marche pas avec Jésus, ce garçon-là. Et en même temps, mais les sentiments commencent à s'amorcer. Attention, avant que les sentiments s'amorcent, laissez-vous, et je parle aux jeunes ou ceux qui veulent se marier, laissez-vous conduire par la vérité. Hein, parce qu'une fois que les sentiments prennent le dessus, ça met beaucoup de... Voilà. Mais la vérité, voilà. Et elle a voulu dire, Seigneur, d'abord ta volonté. Qu'est-ce que tu veux? Et dans un culte comme celui-ci, il y a eu un don spirituel. Et elle a tout de suite compris que c'était pour elle. Tu es comme une colombe. Tu cherches ce qui est pur. Mais au-dessus de toi, il y a un oiseau de proie qui veut t'attaquer et qui veut te déchirer. Fuis. Tac. Et elle a compris. Elle a compris que c'était pour elle. Elle a compris que le Seigneur la prévenait. Et elle a tout de suite compris. Il y a une conviction dans son cœur. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle était d'origine espagnole. Et étant d'origine espagnole, son nom, c'était Paloma. Et Paloma, c'est la colombe en français. Alléluia. Elle a dit, merci Seigneur parce que tu me préviens. Alléluia. Mais ça sert à ça, les dons spirituels. Amen. Alléluia. Pour que nous soyons tous prévenus les uns par les autres. Une parole de sagesse, de connaissance. Mais merci Seigneur, tu m'as prévenu. Alléluia. Je vous rappelle que les dons spirituels, eh bien, encadrent le fameux chapitre 13 de 1 Corinthiens dans l'explication des dons spirituels. Et 1 Corinthiens 13, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. Philadelphie, si on aime ses frères, si on aime son église, mais on veut être baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir être un instrument entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et par amour, prévenir ses frères et ses sœurs. Alléluia. Je voudrais avancer quand même. Et garder la parole, garder la sainteté, mais également garder la vérité. Ta parole est la vérité. Nous dit le Seigneur, alléluia. J'ai noté ceci, l'Église a toujours grandi et prospéré en s'attachant à la vérité. L'Église s'est toujours affaiblie en s'éloignant de la vérité. Récemment, avec le groupe de jeunes de la Mosson, on a visionné un film que je vous conseille, qui s'appelle Luther. Luther. Et c'est un film qui est bien fait parce qu'il remet en perspective l'histoire, le temps dans lequel, le siècle dans lequel Martin Luther évoluait. C'était un homme, donc, au début de la Renaissance, sortir du Moyen-Âge, eh bien, qui vivait avec cette angoisse du jugement de Dieu. Et pour essayer de plaire à Dieu, il choisit d'entrer dans les ordres. et dans la religion catholique romaine. Et il devient professeur de droit, enseignant dans le droit canon catholique romain. Et puis, il vit toujours avec cette pensée même que Dieu est injuste parce qu'il nous permet de vivre sur cette terre pour nous juger. Il y a la pensée de l'enfer, du purgatoire. Il y a comme une chape de plomb dans sa vie. Et puis, tandis qu'il doit enseigner dans une école, eh bien, il est amené à étudier l'Épître aux Romains. Il n'avait jamais lu la Bible et il se met à lire la Bible pour la première fois. Et dans l'Épître aux Romains, il découvre quelque chose qui va changer toute sa vie. La vérité, c'est qu'en réalité, Dieu est amour, alléluia, et que nous avons été justifiés, c'est-à-dire rendus justes, sauvés, parce que Jésus a donné sa vie à la croix du calvaire, alléluia. Dieu s'est fait homme, non pas que Dieu soit un homme, mais Dieu s'est fait homme pour venir dans un corps de chair, afin que ce corps meure pour nos péchés et que nous soyons rachetés de la vaine manière de vivre. Et si vous voulez aller avec moi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 23, voici ce que Martin Luther, entre autres, eh bien, a découvert. Je le lis avec vous, il nous est dit... Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et à partir de là, vous le savez, il va y avoir un réveil spirituel qui va parcourir toute l'Europe. Il va y avoir des oppositions, des erreurs aussi, des guerres, des choses terribles. Mais voici... un mouvement spirituel est né à partir de ce moment-là. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que d'une certaine manière, encore en 2023, on est héritier de ce qui s'est passé il y a 500 ans. Alléluia ! Parce que quoi ? Un homme a remis la Bible au centre. Alléluia ! Si vous allez à Genève, on a servi le Seigneur dans cette région de la Haute-Savoie, à la frontière suisse. Si vous allez à Genève, il y a une cathédrale. Je crois qu'on l'appelle, je ne me souviens plus comment on l'appelle. Mais dans cette cathédrale, il n'y a plus aucune statue. Il n'y a pas d'autel. Il y a une chaire au milieu. C'était la chaire de Jean Calvin à l'époque. Et alors, je ne suis pas le calviniste. Hein, mais il y avait ce symbole de dire, on remet les Écritures au centre. Alléluia. Et la devise de la ville de Genève, c'est « Post tenebras lux ». Après les ténèbres, la lumière. Après les ténèbres de l'ignorance, de l'obscurantisme. Mais voici la lumière. Alléluia ! Amen ! Mais c'est glorieux ça. Quelqu'un a dit tout à l'heure, hein, on est heureux. Hein, on est heureux. On a la lumière. Alléluia ! Jésus est venu pour nous sauver. Alléluia ! Et nous voulons rester attachés à cette vérité qui met Jésus-Christ au centre. Vous savez, il y a plusieurs façons de lire la Bible. Le diable a une façon de lire la Bible. Et vous savez qu'il lit la Bible. Il le prouve lorsqu'il tente le Seigneur. Mais sa façon, c'est de culpabiliser. Il nous a parlé tout à l'heure d'une synagogue de Satan, vous l'avez lu. Des gens qui utilisent les Écritures, non pas pour amener Jésus, mais pour condamner et pour casser. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'Écriture, elle est biblique, oui. Mais elle est christocentrique. Elle met Jésus-Christ au centre. Et Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Je ne vous connais pas, mais je voudrais vous dire ceci. Toi qui passes peut-être par un temps extrêmement difficile, peut-être dans ta vie spirituelle, peut-être dans ta vie familiale, je voudrais te dire cette vérité. Jésus est celui qui veut t'apporter son secours. Alléluia. Il est celui qui veut te relever. Il est celui qui veut te délivrer. Alléluia. Celui qui est encore pris dans les liens du péché. Le Seigneur veut t'en délivrer, briser ce péché. Il est mort pour toi à la croix, afin que tu sois libéré. Alléluia. Et ça, c'est la grâce de Dieu. On a la joie d'avoir vu des gens sortir de l'erreur, sortir du mensonge, sortir de leur... On a eu la joie de baptiser une jeune fille qui est sortie de l'islam dans ce quartier de la Mosson. C'était une joie pour nous. Et je me souviens du jour où elle était dans le groupe de jeunes, elle s'est mise à prier. Seigneur, si on m'avait dit il y a une semaine que je serais en train d'élever le nom de Jésus pour le remercier de m'avoir sauvé de mes péchés. Juste avant, elle était dans l'islam, elle était dans le heavy metal aussi, hein. C'est bizarre. Hein. Mais elle était élevée dans l'islam et elle est passée par les eaux du baptême. Alléluia. Elle a été affranchie, elle a été libérée. Alléluia. Et mes frères et sœurs, étant de la vérité, nous voulons comprendre aussi une chose, eh bien, c'est que nous sommes dans un monde où le mensonge devient une norme. Une norme. À tel point que il y a toutes sortes de départements dans les médias actuels, les médias dits sérieux, qui recherchent à discerner ce qu'on appelle les fake news. Et le mensonge devient une arme. Récemment, encore cette semaine, des officines ont été démontées et au moyen de quelques rémunérations assez astronomiques, on peut défaire un État, on peut manipuler des élections, arranger le mensonge pour qu'il soit cru via les médias, réseaux sociaux, etc., etc. Et nous voyons que nous sommes dans un temps comme cela. Seigneur, comment faire pour résister à cette déferlante de mensonges? Comment faire, Seigneur, pour faire connaître aux hommes et aux femmes de notre temps que tu es la vérité? Je peux vous donner un témoignage? Il y a quelques années en arrière, je suis allé faire une visite pour une grand-mère. Elle avait une aide de ménage, une aide ménagère, qui était là et qui lui avait parlé de Jésus, c'était une chrétienne. Et comme elle avait quelques soucis d'élocution, dit, est-ce que tu veux que le pasteur vienne te voir? Alors moi j'y suis allé, c'était une femme qui était toute seule, elle était veuve à un certain âge, et depuis que son mari était décédé, toute sa belle famille l'avait complètement rejetée. Maintenant, tu fais plus partie de la famille, c'est ce qu'on lui avait dit le jour des obsèques de son mari, hein. Drôle de parole de consolation. Hein. Elle est comme ça, et moi je vais la voir, et elle est dans un état dépressif, même le chat était dépressif, ils sont fuyés sous le lit là, j'ai jamais pu le voir bien longtemps celui-là, bon ben voilà, et je lui parle de Jésus, je lui parle du Seigneur, je lui dis mais le Seigneur est capable de vous rendre heureuse, je fais des cauchemars tous les soirs, mais Jésus est capable de mettre la paix, etc. Et elle me dit ceci, combien va-t-il falloir de temps que je vienne? Deux fois que je vienne à votre réunion, dans votre église, pour qu'il m'arrive tout ce que vous m'avez dit. Ah, déjà, elle avait commencé à penser. Combien de temps va-t-il falloir que je vienne dans votre église pour qu'il m'arrive tout ce que vous m'avez dit? Et là, il y a un mot qui me vient. Je crois que le Seigneur me l'a placé sur son cœur. Dans l'évangile, selon Marc, il est écrit aussitôt. Aussitôt, aussitôt. C'est un mot qui revient. Jésus, il ne traîne pas. Hein. Il agit tac, tac. Hein, voilà. Je lui dis, mais maintenant, aussitôt. On va prier, ah bon? Dans la petite cuisine, là, avec le réchaud à côté, là, on a prié le Seigneur. Jésus est là. Seigneur, bénis cette sœur, bénis cette amie. Tu n'es pas encore une sœur. Seigneur, remplis-la de ton Saint-Esprit et libère-la de ses cauchemars. Le lendemain, je la vois à la réunion, il y avait une réunion. Je ne fais plus de cauchemars, mais j'ai bien dormi. Gloire à Dieu. Elle m'a dit... Ben c'est bien, j'ai dit c'est bien. Elle m'a dit, ben, je peux venir à la réunion, oui. C'était bien, c'était un mardi soir. Elle m'a dit, oui, mais je ne viendrai qu'à la réunion du mardi soir parce que c'est tout. Mais faites comme vous voulez. Donc on vient. Et puis, elle vient le mardi, après elle vient le dimanche. Elle dit, écoutez, je viens le mardi et je viens le dimanche, mais c'est tout. Hein. Moi, j'ai dit, vous êtes libre. Hein. Voilà. Hein. Après, le mardi, le dimanche, le vendredi. Je viens le mardi, le dimanche, le vendredi, mais c'est tout. Hein. J'ai dit, ben, c'est bon. Hein. Et puis, je passe sur certains détails, elle a été guérie miraculeusement. Et là, elle m'a dit ceci, si on m'avait dit qu'à la fin de ma vie, je rencontrerais quelque chose d'aussi extraordinaire, l'amour de Jésus pour moi. Alléluia. Elle qui était paralysée par l'angoisse, qui avait peur dans son petit appart, là au sommet de sa tour, quand le vent soufflait, elle mettait les mains sur la double porte de fenêtre pour pas que le vent... Elle avait peur de tout, mais quand on allait la voir, elle écrivait des poèmes, mais Jésus était là dans sa vie, mais sa vie a été complètement changée et transformée. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Il y a eu une action du Saint-Esprit. Je reviens sur les dons spirituels. Le Seigneur nous a donné des outils pour que la vérité soit confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Et des vies changées et transformées. Et nous y croyons. Amen. Gloire à Dieu. Et je termine. Je termine. Pour dire simplement ceci, garde ma parole, mais gardez le plan de Dieu. Jésus, dans ce texte de l'Apocalypse, reprend une prophétie, Ésaïe chapitre 22 et le verset 22, où il est dit ceci, je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David, quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira. Et cela signifie que le Seigneur a toute autorité, c'est lui qui porte la clé, c'est lui qui ouvre et personne ne ferme, et le sens c'est celui-ci, rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Et il y a une bénédiction pour ceux qui gardent, eh bien la parole du Seigneur, c'est que Dieu les garde. Alléluia. Et nous, nous comprenons qu'il y a une chose que nous devons faire, c'est bien sûr l'avenir est là, mais en gardant sa parole, en veillant sur notre intimité, c'est ça la sainteté, notre intimité avec le Seigneur, en veillant à garder la liberté et en la diffusant autour de nous, parce que le Seigneur ne nous a pas appelé simplement à la garder, mais à la répandre, alléluia, eh bien, et en la diffusant autour de nous, nous comprenons que nous sommes gardés dans le plan que le Seigneur a préparé pour nous, de telle sorte que ce qui compte, ce n'est pas tellement les circonstances. Parfois, on se bat contre les circonstances. En réalité, c'est pas les circonstances qui font affronter. Le vrai combat, c'est le combat de la foi. Je reste attaché à ta personne. Je reste attaché à ta parole. Exemple des Écritures, Actes 16, 25. Paul et Silas sont jetés en prison pour se dire, c'est la fin du ministère. Ça s'arrête, c'est fini, c'est fichu. Non, c'est pas fichu. Il prie d'abord et il chante ensuite. Et il y a une parole qui a lancé Paul dans cette direction de la Macédoine. C'est quoi? C'est « Passe en Macédoine, secours-nous ». Seigneur, ces gens, ils ont besoin du secours. Si vous relisez Acte 16, on n'a pas le temps. Mais vous verrez que tous ont besoin d'être secourus. Lydie a eu besoin d'être secourue. La Pythonisse a eu besoin d'être secourue. Et l'apôtre Paul aussi a eu besoin d'être secouru. Si Dieu ne lui avait pas dit d'y aller, il ne savait pas où aller. Et là, dans la prison, il dit, mais Seigneur, tu nous as envoyé, on est dans le bon timing, on est dans le bon tempo, c'est pas possible que tu nous oublies, mais tu vas venir. Alors, en attendant, on va te louer. En attendant, on va prier, on va te chanter, on va te glorifier. Et Paul et Silas prient, et vous connaissez la suite, tremblement de terre qui secoue la prison, les portes s'ouvrent. Il y a un réveil, là, dans cette prison, parce que une prison dont toutes les portes sont ouvertes, les chaînes tombent et les prisonniers qui s'échappent pas, c'est bizarre. Mais ils restent tous là, ils découvrent la grâce de Dieu avec Paul, et puis le geôlier qui veut se tuer lui aussi, il découvre le salut, alléluia, amen. Et nous découvrons que le plan de Dieu, eh bien, s'accomplit toujours. Nous voulons veiller, Jésus revient, il va nous reprendre, il prendra les siens, il apportera le secours, il accomplira ses promesses, et nous, en ce qui nous concerne, nous aussi. Nous voulons rester attachés au Seigneur. Alléluia. Vous savez, et je vais terminer là-dessus, il y a une personne que j'avais oublié certaines choses. Concernant la sainteté, gloire à Dieu. N'oubliez pas une chose, de vous charger de la croix. Celui qui est saint, c'est celui aussi qui renonce à lui-même. Non plus mes désirs, Seigneur, non pas ce que je veux. Mais pour méditer là-dessus plus... pourrait méditer là-dessus une autre fois, mais je termine en disant que Philadelphie venait de connaître quelque chose de compliqué. Les historiens et les archéologues l'ont retrouvé. Il y a eu dans tout ce secteur un tremblement de terre. Et au moment où ce tremblement de terre a eu lieu, un petit peu, on est en Turquie, hein, un petit peu comme ce qu'on voit actuellement, eh bien, la ville a été rasée. Certaines villes ont été rebâties, mais eux, ils ont mis un peu de temps avant de rebâtir. Et la ville se retrouvait, la population en périphérie, et certainement sous des tentes. Voilà, dans une forme de précarité. C'est pour cela, lorsque on lit ce texte et qu'on connaît ce détour de l'histoire, eh bien, on est surpris, on est ému parce que le Seigneur fait comme promesse. Voilà, tu as perdu ton habitation, tu es dehors, tu es comme exclu. Et parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut vivre des vexations au travail, on peut se sentir exclu, même en famille. Eh oui, ça arrive. Hein. Et pas avoir toutes les facilités que d'autres pourraient avoir, hein, comme étant mis de côté. Mais il y a une promesse qui est faite. Et c'est celle-ci. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que malgré toute l'exclusion que la vie peut procurer, eh bien dans nos vies, dans les événements peuvent procurer, mais il y a une promesse de Dieu. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons la tenir ferme. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alléluia. Il y a des promesses qui sont là. Alors, nous voulons garder cet amour fraternel. Et je crois que quand on connaît le plan de Dieu pour nos vies, alléluia, le Seigneur veut le meilleur pour nos vies, mais on veut prier les uns pour les autres. Mon frère, ma sœur, reste attaché à Christ. Amen. On va terminer en priant le Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, tu es la porte. Tu es celui, Seigneur, qui ouvre les portes également. Et Seigneur, combien nous voulons veiller sur nous-mêmes, Seigneur, veiller sur ta parole. Seigneur, et garder, Seigneur, ce que nous avons reçu, ne pas le perdre. Des événements, Seigneur mon Dieu, fâcheux dans nos vies, Seigneur, peuvent nous faire oublier le trésor que nous avons reçu. Mais Seigneur Jésus, nous voulons laisser ton Saint-Esprit agir dans nos cœurs, afin qu'il illumine les yeux de notre cœur pour considérer tout ce qu'il y a de précieux en toi et qui n'a pas changé. Seigneur, je te prie de bénir, Seigneur, chacun d'entre nous. Père céleste, alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons prendre des positions ce matin, Seigneur, pour garder ta parole, pour veiller sur notre identité, notre intimité avec toi, pour veiller, Seigneur, sur le message, alléluia, la vérité, et pour veiller, Seigneur, à pratiquement rester attaché à ta personne, pour entrer dans ton plan, alléluia, parce que tu as des projets, alléluia, et de bonheur, pour nous donner un avenir, une espérance. Merci, Seigneur, de bénir particulièrement Lionel, Seigneur, Sabine, dans l'avenir que, Seigneur, tu veux leur donner. Seigneur, à toi toute la gloire. Seigneur, nous te remercions. Mon Dieu, bénisse également l'Assemblée, chacune de nos vies. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.